Merci pour ce merveilleux moment dans sa présence. Et c'est vrai que cette question, elle doit nous amener à réfléchir. Qu'est-ce qu'il en serait de notre vie sans lui? Qu'est-ce qu'il en serait de notre vie? Peut-être certains parmi nous ne seraient plus là. Mais qu'est-ce qu'il en serait de nos vies sans sa grâce, sans son amour? Alors, on va faire plus que se remémorer. On va activer la présence de Dieu en nous. Il est là et il veut bénir son peuple. Il veut nous fortifier. Je pensais à l'épisode où Marie va voir Élisabeth et Jean-Baptiste a tressailli dans le sein de sa mère parce que Jésus était là. Et on n'est pas simplement en train de s'informer de théologie ce matin. On veut faire tressaillir la vie de Dieu qui est là en nous, qui se développe. On veut rencontrer le Dieu de la parole afin que la parole de Dieu vienne nous percuter. C'est pas un livre. Nous croyons vraiment que Dieu a inspiré, Dieu a parlé à travers des hommes, des femmes et qu'il fait tressaillir, il fait plus que remémorer, il active sa vie en nous. Alors on va lire deux textes ensemble, on va retrouver notre merveilleux petit vigneron. Il y a tellement de choses à nous dire puisque nous devons rentrer dans la moisson, puisqu'il y a tellement de choses à accomplir, tellement de petites brebis d'hommes et de femmes que Dieu aime passionnément comme nous, il est venu chercher là où nous étions. On veut vraiment s'équiper. Ça c'est le cœur de Dieu pour notre monde. Et vous êtes les bonnes personnes. Vous avez un potentiel transmissiel, de transmission. On peut transmettre le ciel à travers des paroles toutes simples. Oui, il y a des paroles de vie. Le message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans un contexte aussi gris que le nôtre, de pandémie, le joyau de l'évangile prend une telle dimension. Luc 13, on va lire deux textes. Il dit... Encore une parabole. Un homme avait un figuier au bord du terrain, au bord de sa vigne, planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, j'en trouve pas, j'en ai marre !» Il utilise du terrain pour rien, il boit l'eau, il... Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Donne-moi un délai, donne-moi un an. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Il y a un deuxième texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, un passage bien connu, 9:35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Jésus allait à la rencontre des figuiers, à la rencontre des hommes et des femmes assoiffés de lui. Il enseignait dans les synagogues. Combien de fois il a dit que Jésus enseignait? On a besoin de moments où on laisse Jésus nous enseigner. Il enseignait, proclamait la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Seigneur, viens toucher les corps de ceux qui nous écoutent. Viens les toucher, Seigneur, tu es capable à distance, en différé, de toucher, de guérir. Viens faire du bien, parce que tu as porté nos maladies, tu as porté nos souffrances. Et tant ta bénédiction, Seigneur, et tant ta bénédiction. À la vue de la foule, il fut rempli de compassion. Et touché devant cette foule, car elle était blessée et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Telle est l'attitude de Jésus devant la foule. Alors, la semaine passée, j'espère que vous étiez là, vous avez entendu cela. On s'est occupé des coulisses de notre vie. Hein, souvent, on ne voit que le devant de la scène, les actes héroïques, tout ce qui marche bien. Mais il y a toutes les coulisses, tous les ratés, tous les dérapages de nos vies. Et on s'est attaqué un peu à nos coulisses, à nos obstacles dans notre amour pour ceux qui ont besoin de rencontrer Jésus. On s'est attaqué à cela. Tout ce qui fait obstacle, toutes les barrières dans ma vie de vigneron qui m'empêchent d'apporter l'amour de Jésus-Christ. Nos coulisses. On a vu plusieurs de nos barrières. Mauvaise méthode. Mauvaise méthode, la barrière de la crainte, j'ai peur de mon incapacité, je ne me sens pas capable pour annoncer la bonne nouvelle, ou l'indifférence, alors que Jésus voit cette foule, il est touché, nous sommes indifférents, on a peur, on n'a pas de créneau horaire pour eux, on s'isole d'eux, on s'est attaqué à cela. Mais plusieurs pourraient dire, ouais, j'ai accouillé, c'est quand même pas top, c'est toujours pour nous culpabiliser. Est-ce que c'est que de la faute du vigneron si le figuier chaume ne porte pas de fruits? Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser un peu au figuier, ces obstacles. Je crois que, il y a des médecins parmi nous, dans les soins thérapeutiques, il y a toujours deux pôles. Il y a le patient, il y a sa maladie, comment ça se développe, et puis il y a le pôle thérapeutique, les soins, le médecin, le traitement. Et on ne peut pas toujours accuser le médecin, comme on ne peut pas toujours non plus accuser le patient, le malade. On a regardé à nous, en tant que vigneron. Et on va rejoindre ce petit monsieur, ce vigneron, et on va regarder un peu l'état du figuier, et se dire, mais pourquoi tu pousses pas dans la plantation? Quel est ton problème? Quels sont tes obstacles? Et on a besoin aussi de savoir ça. La semaine passée, je vous demande de réécouter, de laisser descendre ces choses en nous pour devenir des vignerons compétents. Parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions à la méthode, il y a des solutions à ma peur, à mon isolement, à mon indifférence. Il y a des solutions. Il y a des solutions aussi pour le figuier, parce qu'il est malade. On a vu 6 barrières, pour nous, chez lui, il n'y en aura que 3. Je crois qu'on a besoin de connaître quels sont les soucis de l'homme sans Dieu, pourquoi il ne croit pas, pourquoi il ne vient pas à Jésus-Christ, parce qu'il y a des solutions. C'est pour ça que le vigneron dit, allez, attends, ne coupe pas. Il y a des solutions, on peut faire quelque chose. Et la bonne nouvelle, avec la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Les premiers responsables de l'église, quand ils ont appris que, soi-disant, Saul se serait converti, ils ont dit, non, pour lui, il n'y a pas de solution. C'est un subterfuge. C'est un bon film d'espionnage, il va venir en intérieur. Mais non! Parce que même pour un gaillard comme celui-là, indéboulonnable, irréprochable, un casseur de chrétiens, il y avait des solutions pour ce figuier. Le Père n'a pas voulu couper. Le Père ne veut pas couper autour de nous. 3 obstacles pour nos amis incroyants. Et je vous rappelle qu'il n'est pas question de prosélytisme, mais de les aimer et de partager la bonne nouvelle. D'accord, ne comprenons pas ça comme des techniques de vente. On n'est pas des agents commerciaux. On était touchés nous-mêmes, on était rebelles, ignorants. Et Jésus nous a touchés. Et on veut que ce que Jésus a fait en nous, il puisse le faire aussi en eux. 3 barrières. La première, allez, retenez ça, parce que ça va nous aider dans nos contacts avec cette foule qui est abîmée, qui est tellement terrassé par le non-sens de la vie. C'est tout d'abord des barrières émotionnelles, au niveau des émotions. Je crois que beaucoup d'incroyants cultivent une attitude négative vis-à-vis de la religion officielle et du christianisme en particulier à cause d'expériences pénibles avec l'Église ou avec les croyants, avec les chrétiens. Peut-être ils ont grandi dans des familles religieuses, chrétienne, légaliste, oppressive, peut-être une des choses, je suis frappé de voir que ce qu'on reproche le plus au christianisme, c'est l'hypocrisie des chrétiens. Et ils disent non, émotionnellement, pour se protéger, ils vont s'abriter derrière un mur d'émotions, dire, oh non, ils m'ont tellement déçu, les émotions. Et ne croyez pas que nous sommes à l'abri des émotions. Avec les 5 enfants, chaque fois qu'on allait chez le dentiste, rien que l'odeur, en ouvrant la porte du cabinet, l'odeur antiseptique, serrer la main. Les émotions. Si tu as vécu des choses difficiles à l'école, hein, parfois j'accompagne Laurence à l'école, je l'aide à porter des choses dans sa classe, les écoles ont toujours la même odeur. Oh, et ça fait naître. Je me souviens quand j'ai quitté Bruxelles pour venir en Wallonie, l'odeur était plus ou moins la même, quoique c'était peut-être mieux. Mais en quittant Bruxelles, au début, je me sentais tellement seul. Et quand je rentre dans une école maintenant, si je ne fais pas attention, l'émotion première, c'est la solitude. Et je crois que parfois, l'un des grands soucis que nos amis non-croyants ont, c'est une émotion qui est née de circonstances qui fait que, oh non, 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 non. Non, non, ça, je veux pas. Alors la solution, c'est quoi? Faiblesse? Pour renverser cet obstacle, il nous faut jeter des passerelles d'amour et d'amitié avec les gens du dehors. Pour ôter cet obstacle, il faut que nous puissions dresser des passerelles d'affection, d'amour, où on les sert, on trouve des centres d'intérêt communs, on s'intéresse vraiment à eux, on les aime vraiment. C'est beaucoup plus facile de construire des murs que de construire des ponts. Mais, mes amis, les gens ne vont jamais croire que tu les veux au ciel si tu n'es pas prêt à les accueillir dans leur salon. Il faut que tu passes du temps, que tu les aimes, que tu les serves, comme Jésus. À la vue des foules, il prend du temps. À ce moment, il rassemble ses disciples en disant, on va aller se reposer, mais la foule est là. Ok, les gars, on va. Disponibilité. Je crois qu'on peut progressivement faire disparaître la méfiance et les stéréotypes négatifs en se conduisant de manière aimable, fiable et en ne cherchant pas à manipuler, en aimant simplement. Pourquoi les gens sont venus près de Jésus? Ils avaient bien capté qu'il n'était pas comme les pharisiens en train d'endoctriner. Ils les aimaient. Souvent, je me dis, mais quand les mamans confiaient leur enfant, pour retirer un bébé de la main, des bras d'une maman, faut avoir un laissez-passer, hein. Oui, on le voulait donner à Jésus parce qu'il aimait, parce qu'il servait. On dit que les gens ne s'intéressent pas à notre savoir aussi longtemps qu'ils ne savent pas l'intérêt que nous leur portons. Les gens ne s'intéressent pas à ta doctrine, à ta religion, tant qu'ils n'auront pas vu, mais ce gars-là, ce couple-là, bon sang, ils m'aiment, ils nous aiment, ils sont disponibles, ils ne sont pas en train de nous rabâcher les oreilles, ils nous aiment. Et au fur et à mesure que nous prions pour eux, que nous cultivons naturellement, des relations amicales, on a des centres d'intérêt communs, je pense qu'ils vont pouvoir se rendre compte de la qualité de notre vie et du poids de l'espérance qui est en nous. Ils vont se dire, mais oh, purée, ils ont quand même quelque chose que moi j'ai pas. C'est pas de la manipulation, parce qu'on les aime, on est à côté d'eux, dans leur joie, dans leur peine, parce qu'on est vrai, parce qu'on partage aussi nos joies, nos peines. Et ça va interroger. Je voudrais nous dire que je crois que c'est hors de question d'introduire une tension idéologique, c'est-à-dire le message de Jésus-Christ à un incroyant aussi longtemps que la relation est tendue. Ne commence pas un débat d'idées tant que la relation n'est pas vraiment ouverte. Tu n'es pas en terrain conquis. Et je crois que nous acquérons le droit à l'écoute par notre amour et notre souci de l'autre. Nous acquérons le droit à l'écoute et à l'attention de l'autre par notre amour et notre souci d'autrui. L'amitié qui se vit dans des activités communes constitue vraiment une passerelle qui nous permet d'aller dans leur univers. Cette amitié qui se vit sous toutes ses formes nous permet d'aller dans leur univers pour que peut-être eux, un jour, viennent dans notre univers. Mais cet établissement de passerelle, ça prend du temps, mes amis. Et nous, on est tellement habitués. Oh, on veut tout, tout de suite. Oh, j'ai qu'à descendre et j'ai le repas qui est préparé. Et l'établissement d'une vraie relation, d'une vraie amitié, ça prend du temps et ça demande des efforts. Mais c'est le moyen le plus efficace pour communiquer le message de la bonne nouvelle. Et nous, on aimerait gommer ça. On aimerait juste faire un peu de porte-à-porte, juste un petit tract, juste le dire une fois, et puis tu te débrouilles. Jésus s'est vraiment incarné. L'incarnation nous montre qu'il n'a pas parlé du haut des cieux. Il est venu. Il a pris le temps. Il a pris les 12 pendant 3 ans. Il a établi une relation. Quand Pierre dit, mais à qui irions-nous? C'est pas qu'il a mieux compris que les autres, mais il avait une telle proximité avec Jésus. Il faut que nous soyons proches, que nous aimions les gens. Point. Et prions que dans ces moments-là, ils puissent voir le Christ en nous, pas nous. Et qu'ils demandent raison de notre espérance. Je sais pas pourquoi, mais c'est développé dans les églises une mentalité où pas trop de contact avec les gens du dehors parce qu'ils vont compromettre mes convictions. Paul dit, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Paul ne tenait pas compte des apparences, ni du point de vue de la personne dans son cheminement. Il s'efforçait d'être avec eux, de les aimer, d'être à leur niveau, de s'identifier au maximum à eux. Dans son désir de rencontrer Jésus, il a pris l'initiative de trouver un terrain d'entente sans compromission. Pour lui, c'était toujours communication sans compromission, sans contamination. Mais me faire tout à tous. Avec les juifs, ils pouvaient manger cachère. Avec les musulmans, ils pouvaient manger halal. Pas de souci. Avec nous, il aurait mangé une fricadelphe avec des frites. Pas de souci. Il nous aurait accompagnés au bowling. Il serait devenu notre ami. Quand il quitte les anciens d'Éphèse, le texte nous dit dans Acte 20, il pleurait sur la plage. Quoi, parce que l'encyclopédie théologique, Paul s'en allait? Non, parce qu'il l'aimait tellement. Il n'allait plus le voir. Il y avait une telle relation. Notre force, c'est l'amour du Christ en nous qui nous permet d'aimer. Je crois, et je ne veux plus trop utiliser cette expression quand on dit, on va gagner le monde pour Jésus, on va gagner Charleroi. Ouais, mais si je ne m'occupe pas déjà du monde qui est autour de moi, je crois que je vais gagner jamais personne. Notre tâche est vraiment d'être fidèle dans nos relations, en focalisant notre attention sur les personnes que Dieu a placées dans ta sphère d'influence. Il y a des endroits où que toi, il n'y a que toi qui y vas. Sois fidèle, sois Jésus, aime, prends le temps. Ça ne te regarde pas le temps de Dieu. Regardez la parabole de la brebis perdue. Ça illustre quoi? Toute l'attention pour une brebis, une! Le berger aurait pu dire, ça va, j'en ai encore 99, et nous on aime bien rester entre nous, on prend soin de nous, ok. Mais cette parabole nous montre que non, il faut aller chercher celle-là, il y a des efforts, il y a quelqu'un qui est en train de perdre sa vie, vous savez pourquoi? Parce qu'une vie c'est précieux aux yeux de Dieu, une! Tu es là au lit, et vous allez vivre un événement extraordinaire, et hier on se disait encore avec Laurence, il y a 3 ans, c'était la pleine dérive. Peut-être tu serais mort maintenant. Mais Dieu s'est dit, je le veux. Et il s'est investi en toi. Une brebis. On peut dire, allez, ça va. C'est pas grave, hein. Même pas belge. D'une localité inconnue. Dégâts collatéraux. Mais non. Le berger, il se met en route pour cette petite brebis. Et la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule. Chaque être humain précieux. Tous ceux qui t'entourent, arrête de les voir comme des côtes-barres. Calme-toi, prends le temps, aime-les, fais tomber les barrières émotionnelles, premièrement. Ok? Parfois, on est comme des éléphants dans des magasins de porcelaine. Tu ne tiens pas compte des traumatismes émotionnels que peut-être nous avons provoqués. Que nos pères ont provoqué, que l'Église a provoqué. Quand on entend tellement de scandales dans les Églises, vous pensez qu'on est crédible? Il faut qu'ils voient, et ça prend du temps, de voir qu'on n'est pas des extraterrestres, qu'on n'est pas des hypocrites. Le dimanche, et puis alors, le dimanche après-midi, en temps chez eux, c'est déjà la Java. Non, barrière émotionnelle. Deuxièmement, les barrières intellectuelles. Sache qu'il y a aussi des barrières rationnelles, intellectuelles. C'est Socrate qui disait que une vie pour laquelle on ne se pose pas de questions, ça ne vaut pas la peine d'être vécue. Vous allez dire que c'est plus ou moins la même chose au niveau de la foi. Une foi qui ne pose pas de questions aux autres, elle aura du mal à être acceptée. Il faut que notre foi, elle pose question, que notre vie pose question. C'est Stott, dans une très bonne série, un chrétien à l'aube du XXIe siècle, disait que il ne faut pas encourager l'arrogance intellectuelle, mais il faut quand même répondre aux besoins d'intégrité intellectuelle. Il y a des gens qui se posent vraiment des questions. Alors, je ne parle pas de toutes ces questions, on a cherché de te piéger, ou tout confier derrière la question, il y avait une intention de te détruire. On a fait ça aussi avec Jésus. On le piégeait. Mais on t'a souvent posé des vraies questions, des vrais problèmes, qui demandent des réponses. Il y a des étudiants parmi nous, quand le professeur, dans son immense bonté, vous donnait les questions des examens, vous étiez censé alors trouver les réponses. Et si tu ne parvenais pas à réussir, le problème, c'est chez toi. Il te fallait être sérieux dans ta préparation. Je crois que si nous voulons présenter l'évangile de manière efficace, nous devons trouver les réponses aux questions de nos amis, aux objections. Et la Bible, mes amis, Dieu a dit suffisamment. Il y a une architecture incroyable qui tient la route. Jésus a dit, je suis venu pour rendre témoignage. Il disait ça à Pilate, alors qu'il aurait pu sauver sa peau. Il dit, non, moi je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Dieu nous a donné la vérité, on sait répondre. Dieu nous a dit tout ce qu'il faut, qui est nécessaire, des principes ou des réponses pour répondre aux objections de nos amis. Et quand une question surgit, peut-être si tu n'as pas réfléchi, tu peux dire, ok, première fois que je suis confronté à cette réalité, laisse-moi le temps, je vais réfléchir parce que la Bible y répond. En revanche, si pour la cinquième fois on te pose une question et que tu n'as toujours pas de réponse, tu es responsable de ton ignorance, responsable des dégâts que tu commets. Je crois que parfois beaucoup de chrétiens, au niveau de la défense de leur foi, se disent, dans un monde aussi compliqué, je ne saurais pas répondre. C'est trop difficile pour moi, il y a 1000 objections. Mais vous savez, la plupart des objections adressées au christianisme ne sont que des variantes ou des combinaisons d'une douzaine de questions qu'on peut répertorier. Dans un livre que je vous recommande, je suis heureux que vous m'ayez posé la question de Larry Moody, il a repris les 12 questions qui ont parfois de petites variantes, mais c'est souvent les 12 mêmes questions. Dieu existe-t-il réellement? Pourquoi croire au miracle? Le christianisme n'est-il pas qu'une béquille psychologique? Est-ce que la Bible est fiable? Si Dieu est bon, question suprême, pourquoi y a-t-il tant de mal et de souffrance sur la terre? Pourquoi Jésus serait-il le seul chemin pour conduire vers Dieu? Est-ce que c'est vrai que Dieu va condamner ceux qui ne croient pas en Jésus? Si la foi chrétienne est vraie, pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'hypocrites? Est-ce qu'il ne suffit pas d'avoir une vie morale pour aller au ciel? Est-ce que c'est pas trop facile de dire « moi je crois en Jésus » tout simplement? Ça signifie quoi croire? Et puis est-ce qu'on peut avoir l'assurance du salut? Souvent, les questions qu'on nous pose sont des variantes de ces 12 questions-là. Et c'est de notre responsabilité de répondre à ces objections et de pouvoir apporter un message clair de la bonne nouvelle. Et chaque fois que vous le faites, vous clarifiez la vérité. Vous clarifiez qui est Jésus et ce qu'il a accompli. Ne te sens pas menacé. Souvent, le chrétien dit « Oh là là là, oh, on m'a posé une question. » Ne te sens pas menacé, ne sois pas sur la défensive. Et si tu n'as pas de réponse, dis-lui « Écoute, vraiment, j'y ai pas pensé, mais je vais me mettre en chemin pour rassembler les éléments pour te donner une réponse satisfaisante. » Et ce sera l'occasion pour toi d'acquérir plus de savoir et de savoir-faire. Et tu vas rester en contact avec les problèmes contemporains. Les problèmes changent. Il y a des problèmes nouveaux. Mais les principes de la parole de Dieu restent vrais. Vous savez, le cœur de nos proches ne vont jamais accepter ce que leur esprit rejette. Ce qu'ils ne comprennent pas. C'est présupposer qu'ils sont en eux. Ne leur permettent pas de recevoir l'évangile. Ils ont besoin de réponses. Comme de nombreux obstacles intellectuels sont des fausses informations, on va aider nos amis non-chrétiens à avoir une idée juste de qui est Jésus et de ses revendications sur l'homme. Mais c'est important pour nous de le faire avec tact et bonté. Je voudrais encore dire ça sur ce point. C'est important que nous puissions apporter des réponses, non pas du haut de la chair, mais avec tact et bonté. C'est Paul qui dit « Il faut qu'un serviteur du Seigneur n'ait pas de conflit. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. » Et c'est Pierre qui va nous donner aussi des conseils judicieux pour surmonter les obstacles intellectuels. Il dit « Respectez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur. » Écoutez bien, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite soient couverts de honte. Quand tu lis ça, tu as vraiment l'impression que Pierre dit « Votre manière de vivre va interpeller. Votre manière de vivre, la qualité de votre vie va poser question. Et vous avez besoin d'une triple préparation. Une préparation spirituelle. » C'est ça que Pierre dit. Sanctifiez le Seigneur. Il dit « Vous avez besoin d'une préparation spirituelle. Sanctifiez le Seigneur dans votre vie. » Mais en même temps, on a besoin d'une préparation intellectuelle. Soyez prêts à défendre votre foi. Préparation spirituelle. Soyez connectés au Seigneur. Une préparation intellectuelle. Soyez prêts à défendre votre foi, mais aussi une préparation relationnelle. Faites-le avec douceur et avec crainte. On a besoin de savoir, de connaissance, ce qu'il faut dire. Mais il nous faut aussi un savoir-faire. Comment le dire ? On peut défendre sa foi sans être sur la défensive. Et lorsque l'occasion se présente, n'ayons pas honte d'annoncer, de partager la bonne nouvelle. Pendant le mois de décembre, il y a un dimanche où on va essayer de récapituler. Parce que parfois les chrétiens ont tellement de peine de synthétiser. Mais qu'est-ce que c'est l'évangile ? Il y a des outils qui peuvent vraiment nous aider. Apprenons à les aimer, à les écouter avec bienveillance, à poser des questions sur leurs souffrances, sur leurs besoins, sur leurs questions, de reconnaître les barrières émotionnelles et intellectuelles et d'apporter une réponse satisfaisante. En apportant à nos amis le don d'une attention centrée sur eux, en leur témoignant un véritable intérêt authentique, on va créer une atmosphère où on pourra semer l'Évangile. Sinon, tu ne pourras jamais le faire. Offre-toi, aime-les, réponds à leurs questions. Et quand ce terrain est défriché, tu pourras semer la bonne nouvelle. Deuxième obstacle. Le premier était d'ordre émotionnel. Le deuxième, intellectuel. Le troisième, et je termine avec ça. Les barrières volitives au niveau de la volonté. Donc on a vu qu'au niveau émotionnel, probablement que plusieurs ont vécu des expériences pas top avec des chrétiens ou avec l'Église. Et il te faut, par rapport à ces barrières sentimentales, construire des passerelles. Gagne le droit, aime-les, va sur leur terrain, incarne l'Évangile. Au niveau intellectuel, il faut que tu puisses répondre. Ça prend du temps, mais il faut que tu te mettes en route. Le chrétien doit cultiver l'amour de la parole. Plus tu vas ficher cette parole en toi, plus tu auras les réponses de Dieu à leurs besoins. Troisième barrière, au niveau de la volonté. Leur volonté. Cette barrière existe en raison de la nature pécheresse. Notre volonté a été impactée par le péché. Et il y a en nous une mauvaise volonté. Paul dit, la nature de l'homme s'oppose à Dieu. Ma volonté ne pourra pas chercher Dieu. J'ai été impacté par le péché. Il y a donc vraiment une barrière. La nature humaine s'oppose à Dieu. Alors, comment est-ce qu'on fait disparaître ? On a parlé de la passerelle de l'amour, on a parlé des réponses satisfaisantes. Comment fait-on tomber les barrières volitives au niveau de la volonté ? Ce n'est pas par nous-mêmes. C'est par la prière. Par la prière et par l'œuvre du Saint-Esprit, la persuasion du Saint-Esprit. Jésus dit, quand il sera venu, il vous convaincra. Ce qui veut dire que dans l'évangélisation, dans le fait de partager la bonne nouvelle, la prière, elle est fondamentale. Ce qui rend l'évangélisation efficace, ce n'est pas les méthodes employées, même s'il nous faut de bonnes méthodes. Ce n'est pas la sagesse du témoin, c'est la puissance de la prière, la préparation, le socle posé par la prière. L'établissement de relations profondes avec quelqu'un se construisent dans la prière. Les réponses apportées aux autres se construisent dans la prière. Et les fruits se récoltent dans la prière. Dans l'évangélisation, la véritable bataille, elle se passe dans la prière. Dans la prière. Regardez dans le livre des Actes, c'est intéressant. Là où Paul arrive, prends un exemple, et puis l'église de Philippe. Vous savez la stratégie qu'il avait ? Moi, j'ai rencontré des implanteurs d'église qui passaient des mois et des mois. Je dis pas que c'est pas nécessaire à étudier la topographie, la démographie. Et après, il se passait souvent rien. Paul arrive à Philippe, connaît pas vraiment la ville. Regardez ce qu'il est dit. L'implantation par la prière. Il cherche des lieux de prière, il prie avec les collaborateurs et les choses se passent. L'évangélisation, elle se déroule d'abord, Et encore, dans la prière. C'est une réserve à la prière qu'une place annexe. Tu peux dire que tu mets la charrue avant les bœufs. Tout démarre dans la prière. Il y a de nombreux textes où on voit Paul montrer le lien critique important entre l'évangélisation et la prière. J'en prends deux dans Éphésiens et Colossiens. Et je dirai juste quelques mots pour terminer. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, en priant pour tous les saints. Priez pour moi aussi, afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez pour que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Et puis, dans l'Épître aux Colossiens, persévérez dans la prière. Veillez-y avec une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Quand tu rapproches ce texte, les trois grandes questions, souvent le chrétien dit, mais pourquoi est-ce qu'on peut prier au niveau de l'évangélisation? Comment prier? Pourquoi? Et pour qui prier? Comment prier? Paul dit, adonne-toi à la prière. Persévère dans la prière. Perds pas courage. Prie par l'Esprit. Deuxièmement, il parle des attitudes. N'abrite en toi aucun péché non confessé. Aucune motivation impure. Troisièmement, il dit, veille, protège ta vie de prière. Écoutez bien, là où une église prie, les forteresses tombent. Veillez à prier. Quatrièmement, il dit, faites-le avec action de grâce. Pas de l'évangélisation. L'action de grâce, ça signifie que tu crois que Dieu agit en toi et dans les autres, que Dieu va agir par ta prière. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Paul dit, priez pour que des portes s'ouvrent, que les circonstances se mettent en place pour que je puisse annoncer. Prions pour que des portes, des possibilités s'ouvrent. Prions aussi, deuxièmement, pour que nos bouches s'ouvrent. Il dit, demande, priez pour moi pour que, il est là, à Éphèse, emprisonné, ou à Césarée, ou à Rome, priez pour moi pour que des portes s'ouvrent, les circonstances, mais en même temps que ma bouche s'ouvre, que j'ai pas peur, malgré les chaînes, malgré le discrédit. Troisièmement, priez aussi pour que mon message soit clair, compréhensible. Quatrièmement, demandez à Dieu aussi que j'ai de l'assurance, de la hardiesse. C'est pas de l'effronterie. L'assurance, c'est pouvoir s'exprimer librement, ouvertement et sans complexe. Pourquoi prier? Seigneur, ouvre des portes, ouvre ma bouche, donne-moi de dire des choses clairement, donne-moi de l'assurance, Seigneur. Et pour qui prier? Paul dit, priez pour moi. Priez pour moi. On a besoin, quand on est engagé dans le partage de la bonne nouvelle à travers des relations amicales, qu'on prie les uns pour les autres. Et on a besoin aussi de prier pour ceux qui entendent la parole. La prière, c'est le prélude à toute évangélisation féconde. Le travail d'évangélisation commence à genoux. Commence à genoux. L'Église doit prier. Nous devons prier pour nous, pour ceux qui sont autour de nous. C'est Moody qui disait, avant de présenter les gens, de présenter Dieu aux gens, présentez les gens à Dieu. Avant de parler de Dieu aux gens, parlez des gens à Dieu. Soyons pas comme certains. On voit ça dans les forums de discussion. J'ai l'impression que les chrétiens, c'est nous contre eux. Comme s'ils étaient nos ennemis. Non. Ils sont victimes de l'ennemi. Ils sont victimes de l'ennemi. C'est Paul qui dit, si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, écoutez bien, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Jésus qui est l'image de Dieu. Quant à vous, il dit, vous étiez morts à cause de vos péchés. Ce qui veut dire que c'est normal que nos amis ne comprennent pas, ne voient pas, parce que la Bible dit que spirituellement, ils sont morts, ils sont aveugles, ils sont séparés de Dieu. Ils ont besoin qu'on s'approche, qu'on soit lumière pour eux. Alors gardons-nous de réactions hostiles, coupables. Parfois, les chrétiens fouillent les non-chrétiens comme la vermine, mais on est fous. Souvent, on condamne les non-chrétiens et on se parle entre nous. Il faudrait faire l'inverse. On devrait se condamner pour nos attitudes et leur parler. C'est normal qu'ils ne comprennent pas, qu'ils soient hostiles. Nous étions comme eux, on était morts. C'était notre véritable état spirituel. Alors, je termine, je conclue maintenant. On s'est intéressé aux vignerons. Il y a plein d'obstacles qu'il nous faut surmonter. Mais le figuier, il faut aussi que je puisse m'en approcher avec une main experte. Le vigneron sait ce qu'il doit faire. Il doit mettre de l'eau, il doit mettre de l'engrais, il doit creuser. Il nous faut aimer, il nous faut les rencontrer, il faut être à côté d'eux, il faut devenir crédible. Pas pour simplement être crédible, pour que la bonne nouvelle soit crédible. C'est à travers nous que Dieu veut réconcilier. Paul dit, c'est à travers nous que nous supplions, soyons réconciliés avec Dieu. Montrons-leur par notre disponibilité, par notre amour, qui est Jésus. Répondons aussi à leur objection. Et ça, ça nécessite une culture de la culture, de l'instruction biblique. Et puis un engagement dans la prière. Il faut qu'on veille, il faut qu'on les couvre de prière. Si vous êtes là, c'est peut-être parce qu'il y a des gens, c'est pas peut-être, parce qu'il y a des gens qui ont prié pour vous depuis si longtemps, qui ont pris patience. Dans Ésaïe 49, j'aime bien ce texte. Il est question du serviteur Jésus. Il est dit que Dieu a fait de lui la lumière pour les nations. Il apporte le salut, donc il parle de Jésus, hein. Lumière des nations qui apporte le salut aux extrémités du monde. Et c'est frappant parce que Paul, dans Actes 13, à Antioche de Pisidie, il dit de lui-même, « Seigneur, tu as fait de moi, de nous, les chrétiens, la lumière des nations. Tu nous envoies aux extrémités du monde. » C'est pourquoi on ne fait pas d'erreur en disant, « Mes amis, ici à Charleroi, ici dans ta sphère de vie, tu es lumière pour eux. Tu es porteur du salut jusqu'aux extrémités de tes relations. » Alors, il faut qu'on prenne soin des 99 brebis, mais ça ne peut pas prendre tout notre temps. Il faut qu'après, on se libère pour aller chercher celles et ceux qui sont sans le Christ. Peut-être les musiciens viennent. On va chanter un dernier chant. Avant cela, on va prier. Seigneur, tu as donné du sens à notre vie. Tu nous as impactés pour que nous puissions apporter la vie, la réconciliation avec toi. Nous puissions apporter cette eau vive qui permettra, Seigneur, de satisfaire les besoins les plus importants de nos existences, de leur existence. Tu es cette eau vive, Seigneur. Tu peux combler chaque existence. Je te prie pour que nous puissions ne pas nous replier, mais parce que la moisson est grande, que nous puissions nous lever en disant « Envoie-moi, Seigneur, équipe-moi, donne-moi ton cœur pour les perdus. » On ne veut pas, Seigneur, prier cela avec supériorité parce que nous sommes comme eux. On était complètement égarés, mais tu nous as ramenés au souverain berger, au grand berger. Seigneur, transforme nos cœurs, transforme nos vies dans le nom de notre merveilleux Sauveur, celui qui est avec nous, celui qui est avec nous. Il est avec nous, il est avec toi. Sois vraiment fortifié. Je voudrais vous faire quelques annonces. On aura un chant et puis on a un petit cadeau parce que Espoir a pu se libérer. Il est avec nous, donc c'est lui qui vous saluera pour terminer le culte.